Bonsoir, il est 18h, l'heure de votre émission Une heure en Palestine, programmée chaque mercredi sur Radio Galère 88.4 et animée par différentes associations de soutien à la Palestine. Ce soir, pour votre replay mensuel, c'est Palestine 13, la branche locale de l'association France-Palestine Solidarité, qui anime l'émission, et je suis Vincent. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.assopalestine13.org. Merci à Sidi qui assure la technique. Il ne s'agit pas d'une crise humanitaire, dit très justement Caroline Bedos de Médecins du Monde, mais d'une crise de l'humanité. Nous constatons chaque jour sidéré que le revers de la médaille de cette déclaration souligne une absence total de reconnaissance par l'Occident de cette crise dite de l'humanité. Alors que les massacres de Gaza ont des auteurs identifiés et identifiables, tous israéliens, militaires, civils ou colons, une sorte de milice globale de tueurs, tous volontaires, et selon le quotidien israélien Haaretz, Israël ordonne à ses militaires de tirer délibérément sur les civils gazaouis lors des distributions d'aide humanitaire et dans l'enclave palestinienne. Snipers, qui non contents de tirer sur des femmes et des enfants en attente de ravitaillement, ont inauguré une nouvelle atrocité consistant à attendre que les secours arrivent pour déclencher de nouveaux tirs. D'autres Gazaouis ont été enlevés dans la cohue par des militaires lors des longues files d'attente. L'armée israélienne empêche toujours l'entrée de la presse internationale à Gaza, du jamais vu, équivalent à un droit de tuer. Un nouvel attentat ciblé de journalistes a eu lieu. À nouveau, 5 journalistes palestiniens tués dans des attentats ciblés sur un hôpital du sud de Gaza. Journalistes qui travaillaient pour divers médias internationaux, dont Al Jazeera, Reuters, Associated Press, NBC News et le site Middle East High. Netanyahou regrette cette erreur, un accident, et ouvrira une enquête. Nous connaissons ce genre d'enquête jamais suivie des faits, libérant ostensiblement des assassins après 48 heures de garde à vue. Ces meurtres portent à 250 le nombre de journalistes, quasiment tous palestiniens, tués depuis les opérations génocidaires menées par Israël. Nous entendrons également Timo Brutin, directeur général de Reporters sans frontières sur France Inter, parler de ces hommes et de ces femmes, souvent contraints de choisir entre leur survie et leur métier. Leur mort préméditée fait partie du grand livre à charge quand les comptes pourront commencer et que les assassins seront traduits en justice. En bombardant des hôpitaux, la propagande israélienne a toujours recours à son piteux argument du bouclier humain cachant des combattants du Hamas sans en avoir pu démontrer la preuve une seule fois. Ces mensonges sont également possibles pour leurs auteurs, d'être possible poursuivis par la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, aussi un replay réalisé à partir d'interventions parfois intempestives et un focus sur Ronny Broman, ex-Médecins sans frontières, né à Jérusalem et critique implacable de la politique de Netanyahou. En l'honneur de la nouvelle flottille qui va voguer vers Gaza pour faire ce que personne n'arrive à faire, apporter du réconfort plutôt que du malheur, un souvenir, le replay du retour de Gabriel Catala après l'expédition Andala à Gaza. Écoutons maintenant, sur France Inter, Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières.
Début de la guerre à Gaza, il y a presque 2 ans, plus de 210 journalistes ont été tués, encore 5 la semaine dernière. Et ceux qui restent nous informent au péril de leur vie. Reporters sans frontières appelle les médias du monde entier à se mobiliser. Aujourd'hui, 250 ont répondu à l'appel, dont Radio France. Bonjour Thibaut Brutin.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Reporters sans frontières. Pourquoi mobiliser aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit, là, il faut faire quelque chose?
Ça fait évidemment plus de 18 mois que RSF est mobilisé aux côtés des journalistes de Gaza. Mais là, on a senti un point de bascule avec la frappe du 10 août dans laquelle Anas al-Sharif a péri, mais également celle du 25 août dernier. Je crois qu'il y a un moment d'émotion. Et évidemment, pour nous, il est vraiment fondamental de montrer qu'il y a une fraternité dans la profession. Je crois que c'est la fraternité qui sauvera la liberté de la presse et c'est véritablement ce qu'on essaye d'exprimer aujourd'hui.
D'autant que ce que vous nous dites, c'est que pour beaucoup de ces journalistes qui ont été tués, ils l'ont été vraiment volontairement, ils ont été ciblés par l'armée israélienne.
Il y a 220 journalistes qui sont morts à Gaza depuis le début du conflit. Pour 56 d'entre eux, Reporters sans frontières est en mesure d'apporter des informations qui indiquent un ciblage. Donc les journalistes ne meurent pas. Ils sont tués délibérément par les forces armées israéliennes dans un très grand nombre de cas.
Parce que journalistes.
Parce que journaliste, parce qu'il y a une politique délibérée qui est mise en œuvre par l'armée israélienne, qui va d'abord de la fermeture de la bande de Gaza à la presse internationale, qui passe ensuite par la mise en place d'une cellule qui est chargée de campagnes de discrédit, de dénigrement.
Cellule au sein du renseignement
israélien. Au sein du renseignement militaire, qui permet donc de dire, sur la base de preuves qui sont complètement invérifiables, que tel ou tel serait terroriste. Et puis à la fin, il y a des assassinats ciblés, puisque je crois que c'est comme ça qu'il faut les appeler.
Avec des ciblages aussi téléphoniques, des journalistes sur place qui reçoivent des messages via WhatsApp.
Les forces armées israéliennes savent très bien qui sont les journalistes, savent très bien où ils sont. Et c'est pour ça qu'on a effectivement, oui, des appels sur les téléphones portables des journalistes qui leur disent
«
partez de cette maison, quittez cet endroit, etc. » Donc, quand on nous dit « on ne savait pas que les journalistes étaient là », on n'y croit pas une seule seconde. C'est pour ça qu'il y a eu un tel choc avec la frappe du 25 août. L'hôpital de Khan Younes, le troisième étage, c'était un endroit qui était connu comme un espace où les journalistes avaient accès à un bon réseau. Donc, quand il y a eu 2 frappes, coup sur coup, sur cet endroit, eh bien, je crois que ce n'est pas cohérent avec la connaissance que les services de renseignement israéliens ont.
Thibaut Brutin, qu'attendez-vous de cette journée? Vous pensez vraiment qu'une mobilisation médiatique, même avec 250 médias, va faire changer Israël, la position d'Israël ou ce que fait Israël vis-à-vis de la presse?
Il faut voir que c'est une responsabilité collective. Bien sûr, les forces armées israéliennes ont vraiment la bride sur le cou. Et je crois que le gouvernement Netanyahou ne fait pas grand cas du cadre de protection internationale des journalistes. Il faut que les États qui le souhaitent fassent pression de façon forte et on les entend peut-être pas assez. Nous, on en appelle au Conseil de sécurité des Nations Unies, faire en sorte que la France, le Royaume-Uni, d'autres pays qui en sont membres, demandent la tenue d'une réunion spécifique sur ce point. C'est fondamental, 10 ans après l'adoption consensuelle d'une résolution, la résolution 2222, qui dit sans détour que c'est la responsabilité des pays belligérants que de permettre la couverture des conflits et d'assurer la protection des journalistes. Mais on pense aussi qu'il faut dire que la campagne de dénigrement qui est portée par les forces armées israéliennes contre les journalistes gazaouis, eh bien elle ne marche pas, elle ne prend pas. Et c'est pour ça que le slogan, il est clair, au rythme où les journalistes sont tués à Gaza, il n'y aura bientôt plus personne pour vous informer. C'est un slogan qui est fédérateur, nos demandes, elles sont claires, ouverture de Gaza, fin des crimes commis contre les journalistes, et puis c'est aussi fondamental, évacuation pour les journalistes palestiniens qui le souhaitent.
Le fait que la bande de Gaza soit complètement interdite aux journalistes étrangers, là ce dossier n'avance pas du tout actuellement?
Il a pu avancer, il avance à des degrés divers en fonction des pays avec qui on discute, et je salue la mobilisation de certains États qui ont fait de l'évacuation des journalistes palestiniens une priorité. Force est de reconnaître qu'on n'a pas réussi à obtenir des lignes d'évacuation qui soient stables, pérennes, sur le long terme. Pourtant, on a énormément de demandes. Et quand on voit le ciblage dont font l'objet les journalistes, je crois que c'est vraiment quelque chose qui doit être priorisé. C'est une urgence aujourd'hui.
250 médias, je le disais, ont répondu à votre appel, à l'appel de Reporters sans frontières. 250 médias de 72 pays, c'est bien ça?
Absolument.
Il y a des médias israéliens ou américains?
Alors, des médias américains, oui, on a NPR, on a The Intercept, le grand média d'investigation, on a la Columbia Journalism Review, qui est une autorité morale dans la profession, j'en passe, c'est les meilleurs. Côté israélien, on a évidemment plus de difficultés à mobiliser. On voit d'ailleurs l'isolement dont fait l'objet Haaretz, par exemple, qui ose avoir une couverture critique, mais on a 972, ce journal d'investigation qui unit Israéliens et Palestiniens. Je crois que c'est fondamental d'avoir leur engagement, mais on a des médias de tous les continents, je veux dire en Argentine, au Brésil, en Tchéquie, en Égypte, à Taïwan, vous avez des journalistes, des rédactions qui se sont mobilisées et ont répondu à l'appel. Je crois que c'est fondamental d'avoir cette unité dans la profession.
Thibaut Brutin, les journalistes palestiniens qui aujourd'hui encore, malgré les menaces, malgré la faim, parce qu'en fait ils la vivent cette guerre aussi, hein, ces journalistes palestiniens, est-ce qu'ils sont aussi une cible du mouvement terroriste Hamas ?
Le Hamas a historiquement tout fait pour essayer de contrôler l'information à Gaza. Aujourd'hui, il a, je dirais, une sorte de combat pour sa survie militaire. Les premières violences qui sont commises contre les journalistes, c'est évidemment les forces armées israéliennes aujourd'hui. Mais oui, le Hamas a des organes de propagande, mène aussi une campagne de désinformation massive sur ce qui se produit à Gaza. Et c'est pour ça qu'on a besoin de presse indépendante. Il faut comprendre que s'il n'y a plus de journalistes, ça va être propagande contre propagande. On va être pris entre la propagande israélienne et la propagande du Hamas. Et je crois que personne ne veut ça.
Merci Thibaut Brutin, directeur général de Reporters sans frontières.
Merci au directeur de Reporters sans frontières. Ronnie Broman répond aux grands médias sur Le Média et répond aux questions de Mourad Guichard et de Nadia Lazouni.
C'est le moment d'accueillir Ronnie Broman, ancien président de Médecins sans frontières humanitaires engagé et auteur, entre autres ouvrages, « Les guerres humanitaires, mensonges et intox », publié aux éditions textuelles. Il est par ailleurs membre du comité éthique du Média. Bonjour Ronnie Broman.
Bonjour.
Et merci, merci d'avoir accepté notre invitation, Mourad.
Oui, bonjour Ronnie Broman, et pareil, merci, merci beaucoup. Alors, merci d'avoir répondu effectivement favorablement à notre invitation, d'autant que l'actualité s'y prête largement, parce que vous êtes un fin connaisseur à la fois de la situation au Moyen-Orient, vous avez vécu en Israël, vous avez un passé, un passif et un vécu qui vous rendent légitime pour vous exprimer sur ces questions-là, et par ailleurs, vous êtes assez régulièrement, pas assez à notre goût, mais enfin, vous êtes assez régulièrement présent dans les médias, et ce qui s'est passé là très récemment avec l'ambassadeur américain et le Premier ministre israélien qui sont revenus sur des accusations qui visaient explicitement le gouvernement français et le président de la République. Est-ce que vous avez le sentiment ou pas qu'en France, c'est justifié de parler d'un antisémitisme galopant et encouragé par les déclarations, notamment du président de la République ?
Non, je crois que c'est excessif de parler d'un antisémitisme galopant, d'une espèce de flambée antisémite, mais il reste vrai que le lien fait entre juifs et israéliens et entre israéliens et guerre de Gaza a quelque chose de mortifère. Et le fait que aujourd'hui des juifs soient en quelque sorte mobilisés en tant que tels au service de la propagande israélienne, une propagande génocidaire, une propagande au service d'une guerre, d'une cruauté effroyable, ça met inévitablement en situation délicate, voire dangereuse, un grand nombre de juifs qui, par ailleurs, n'ont pas nécessairement de lien avec Israël, ou peuvent être même extrêmement critiques de ce qui se passe en Israël, ou, à contrario, qui laissent des dirigeants communautaires exprimer en leur nom un soutien pratiquement inconditionnel aux atrocités qui se passent en Israël. Tout ça crée un climat qui est en effet favorable à une accusation collective jetée sur les Juifs. Et évidemment, un certain nombre d'esprits faibles peuvent trouver opportun de manifester du soutien à la Palestine en allant tronçonner un arbre ou en allant poser des tags anti-juifs, alors même que c'est Israël, le nationalisme exclusiviste d'Israël, qui s'exprime à Gaza. Tout ça pour dire que c'est une situation, assez embrouillée, mais qui donne lieu à l'expression soit de préjugés anti-juifs, soit d'une haine anti-israélienne qui est traduite en sentiment anti-juif. Parce que quand on dit « Free Palestine » ou bien qu'on s'oppose au génocide pratiqué par les Israéliens, perpétré par les Israéliens à Gaza, cela aussi est considéré comme des actes antisémites. Donc la deuxième partie de ma réponse à cette question, en effet sensible, importante, est de savoir trier entre ce qui relève d'une opposition politique, humaniste, clairement affirmée contre la politique israélienne, et ce qui relève de préjugés, voire de haine anti-juifs, qui s'expriment à l'occasion de ces actes odieux commis par Israël au nom de la défense des juifs. C'est dans cet ensemble-là qu'il faut arriver à se situer. Et moi, je remarque qu'il suffit d'arborer un drapeau palestinien ou de porter un kéfier pour être immédiatement placé sous le soupçon d'antisémitisme, de haine viscérale d'Israël motivée par la haine des Juifs. Donc cette confusion entretenue constamment entre Juifs et Israéliens et Israéliens et guerre, voilà qui est à l'origine de cela. Et personnellement, je considère depuis longtemps, pas depuis seulement Gaza, mais avec évidemment une force renouvelée depuis le 7 octobre, je considère depuis longtemps que Israël met en danger les Juifs. Et d'ailleurs, je constatais avec le professeur Leibovitch, qui est une grande figure contestataire, mais extrêmement respectée en Israël, que Israël, se voulant le sanctuaire à l'abri duquel les Juifs du monde peuvent trouver de la sécurité, était en réalité, du fait de sa politique, devenu l'endroit du monde où les Juifs étaient le plus en danger, où on tuait le plus de gens au nom du fait qu'ils étaient Juifs. Et ça, Leibovitch est mort en 94 ou en 95. Donc ce ne sont ni la deuxième intifada, ni les événements actuels qui motivaient cela, mais le constat d'une réalité là. Eh bien, on peut étendre cette réalité au-delà des frontières d'Israël. Israël met les Juifs du monde dans une situation très difficile et pour un certain nombre d'entre eux, en danger immédiat, en effet.
Alors, dans ce concert, alors je rappelle qu'il y a encore quelques mois, vous rappeliez ça, que Netanyahou vous mettait personnellement en danger. Est-ce que vous avez le sentiment, pour reprendre votre citation, est-ce que vous avez le sentiment que l'histoire vous a du coup donné raison? C'est ce que vous nous expliquez?
Ah oui, l'histoire a donné raison. Leibovitch m'a donné raison par contre-coup, oui. En effet, et ça ne va pas s'arrêter parce que l'offensive se poursuit, parce que l'antisémitisme invoqué par Netanyahou et par ses supporters, par ses suiveurs, cet antisémitisme est littéralement vidé de son sens. Quand on accuse le secrétaire général des Nations Unies d'être antisémite, la Cour pénale internationale d'être antisémite, Macron d'être antisémite, à cause de la déclaration d'un État palestinien qui, naturellement, par évidence, est aussi le fait des antisémites, on vit tout simplement cette notion qui est une infraction, qui est une pensée criminelle, on la vide totalement de sens, et d'une certaine manière, on réinjecte un autre sens, c'est-à-dire elle n'est pas simplement vide de sens, mais elle prend un sens positif, car si s'opposer à un génocide, si s'opposer à la mise à mort des femmes, des enfants, des innocents, des civils, de façon méthodique, impitoyable, comme le font les Israéliens à Gaza, c'est être antisémite, alors l'antisémitisme devient une vertu, devient non plus une infraction, un délit qu'il faut, et une faute morale majeure qu'il faut condamner, mais au contraire, l'adoption d'un vocabulaire de défense des innocents. Voilà ce à quoi aboutissent ces accusations j'allais dire irresponsable. Non, je pense qu'elles sont au contraire très très pensées. L'antisémitisme est évidemment l'aliment favori d'Israël. C'est ce qui permet, au-delà de toutes les exactions commises, de lui trouver une justification irrécusable. Donc oui, jouer sur cette corde-là, ce n'est pas seulement mettre en avant un danger humain, c'est aussi mobiliser une ressource de légitimation apparemment inépuisable. C'est pas sûr qu'elle le soit, mais enfin, en tout cas, elle est manifestement considérée comme telle par les dirigeants israéliens. Et il importe donc de lutter contre ça, lutter naturellement contre l'antisémitisme quand il est authentique, quand il est bien réel, et lutter contre les confusions entre connotation de la politique israélienne et antisémitisme.
Roni Broman, quand vous dites que Benjamin Netanyahou vous met en danger, de quelle manière? Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner des exemples concrets? Est-ce que vous avez été la cible de propos antisémites de la part de militants palestiniens ou au contraire d'attaques de certains représentants, peut-être autoproclamés même, de la communauté juive qui vous reprocherait votre engagement en faveur des Palestiniennes et des Palestiniens?
Oui, la question est en effet importante. Moi, en tant que personne dont l'origine juive est publique, j'ai en effet fait l'objet de menaces, parfois de bousculades. J'ai jamais été mis réellement en danger, hein, je le précise tout de suite, mais tout de même menacé des pires mots, qu'on allait me casser les dents à coups de barre de fer et ce genre de...
Qui vous menace de... Qui vous a menacé, Roni Broman?
Tout cela, je l'ai en effet subi, mais de la part des sionistes. Ce sont des sionistes, évidemment, des sionistes extrémistes, genre Bétard, LDJ, Ligue de défense juive, qui ont proféré ce genre de menaces, mais ce sont les seules menaces auxquelles j'ai droit. Cela étant, ça fait partie, en effet, de l'éventail des menaces, et ces gens-là, de temps en temps, on l'a bien vu dans le passé, ils passent à l'acte. Donc, d'une certaine manière, je suis mis en danger, non pas par les gens qui contestent la politique israélienne, mais par, au contraire, ses supporters.
Alors, on va regarder un extrait. Alors, parce que quand on parlait des médias et des gens présents sur les médias tout à l'heure qui vont aller dans ce sens-là, ce qu'on pourra appeler quasiment des proxys, pour reprendre leur vocabulaire, hein, à propos de l'Iran, donc des relais français dont on a parlé dans la première partie de l'émission, hein, puisqu'il y a une enquête, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, une enquête de France Info qui confirme ce qu'on se disait ici, ce qu'on annonçait ici il y a quelque temps, à savoir que l'armée israélienne a une cellule qui... fabrique des éléments de langage pour rendre coupables les journalistes assassinés, les dizaines, les centaines maintenant de journalistes assassinés, pour les faire passer pour des militants du Hamas, voire un peu plus. Et donc, on va regarder cet extrait pour essayer de comprendre quelle est la finalité de cette propagande-là. Et je vous poserai la question juste après. On regarde, ça se passe sur CNews, hein, ça se passe pas sur une radio communautariste, ça se passe pas sur I24 News, ça se passe sur CNews. Donc, ça a tendance de plus en plus à bouger, à aller sur BFM TV et aller même un peu plus loin sur le service public. On le verra tout à l'heure, mais je vous laisse regarder cet extrait de CNews où l'intervenant, qui n'est absolument pas qualifié, à part avoir un patronyme de culture juive, a priori, va expliquer que toutes les familles françaises juives veulent partir vers Israël. Je vous laisse écouter.
Le président de la République est peut-être aveugle. Je ne sais pas si on se rend compte de l'été qu'a passé la communauté juive de France. Vous avez eu un rabbin, le rabbin de Neuilly, qui a été agressé deux fois dans la même semaine à Deauville et à Neuilly-sur-Seine. Vous avez l'un des rabbins de Levallois-Perret, qui est pourtant une ville avec une forte communauté juive, avec une police municipale sécurisée. Vous aviez hier le premier maire adjoint David-Xavier Weiss, qui fait un travail formidable, mais qui n'ont pas pu empêcher une agression antisémite. Vous avez eu l'affaire Vueling, vous avez eu les locaux d'Elal vandalisés, la Fondation pour la mémoire de la Shoah, des murs de juste parmi les nations qui ont été vandalisés. Les successions d'actes anti-juifs cet été, pas une seule parole du président de la République, dont sa seule priorité est la reconnaissance d'un État palestinien et de Gaza. Comment voulez-vous que les juifs de France aujourd'hui ne parlent pas de quitter la France? Il n'y a pas une seule famille en France, je vous assure Jean-Marc, qui ne parle pas et qui ne pose pas le débat de quitter ce pays. Parce que c'est compliqué pour les juifs de France aujourd'hui d'envoyer leurs enfants à l'école. Bien souvent, ils ont quitté l'école de la République pour des écoles privées juives, mais qui sont devenues des cibles. Parce que maintenant, c'est des cibles identifiées. Des écoles juives, c'est un repère où même des parents ont peur.
Alors ma question, elle est simple. Est-ce que ce climat qui donnerait... Je mets ça au conditionnel, qui donnerait une impression forte pour les Françaises, les Français de confession ou de culture juive que l'antisémitisme explose et qu'il faudrait partir. Est-ce que tout ça a une finalité, ce climat qui est entretenu par les chaînes de télévision H24, est-ce que ça a une finalité?
Moi, je ne sais pas, je ne peux pas totalement répondre à cette question parce que je ne sais pas quelle est la politique ou la stratégie des différentes chaînes de télévision. Mais En ce qui concerne CNews et I24 News, c'est tout à fait clair. C'est la défense, comment dire, à tout instant, et quelle que soit la situation, quels que soient les méfaits commis par les Israéliens, la défense du régime israélien à tout craint. Donc l'antisémitisme est évidemment une manière de défendre, puisque c'est une façon de pointer un ennemi intérieur qui est tout à fait équivalent à celui que combat le gouvernement israélien, à savoir l'islamisme. N'oublions pas que sous couvert de lutte antiterroriste, enfin, disons derrière la façade de lutte antiterroriste, nous disent les Israéliens, se déroule un combat qui est d'une ampleur inouïe et qui ne se résume pas donc aux frontières de ce territoire exigu qu'est Gaza, mais au monde entier, à commencer par l'Europe, le monde qui est menacé par la vague islamiste que l'Iran est en train d'organiser, de diffuser un peu partout. Donc Israël est en quelque sorte, non pas en quelque sorte, Israël s'affirme comme étant la sentinelle avancée de la lutte contre la barbarie islamiste. Et on retrouve là d'ailleurs, presque au mot près, la manière dont Theodor Herzl, le fondateur du sionisme politique au début du XXe siècle, la manière dont Theodor Herzl formulait le projet sionisme, qui d'ailleurs n'a jamais mis les pieds là-bas, mais enfin qui avait ce projet-là. Donc la vague islamiste qui menace de l'extérieur, mais qui est aussi relayée de l'intérieur, donc la désignation d'un ennemi intérieur, voilà qui est l'aliment principal de ces news et de In24 News, qu'on doit qualifier comme étant l'équivalent franco-israélien de la chaîne RT France, la chaîne franco-russe, qui a été interdite dès le début de la guerre d'Ukraine. Je rappelle que I24 News ne vaut pas mieux que RT France, mais I24 News continue d'avoir le droit de diffuser et de répandre un certain nombre d'insanités, de calomnies, de mensonges propagandistes éhontés, sans subir le moindre contre-coup. Il n'y a pas eu un seul procès pour apologie de crimes contre l'humanité ou apologie de génocide, alors même que, à longueur de temps d'antenne, ces apologies sont défendues par les gens qui interviennent sur ces plateaux.
Et Ronny Broman, à votre connaissance, est-ce qu'il est vrai de dire que les familles françaises juives partent massivement vers Israël, puisque vous expliquiez un peu avant qu'au contraire, les Françaises et les Français de confession juive qui ont fait le choix de vivre en Israël étaient en danger, beaucoup plus en danger en Israël qu'en France, et qu'il y aurait même peut-être un retour de ces franco-israéliens sur le territoire.
Oui, oui, mais les deux sont vrais. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a une hausse du nombre de demandes d'émigration en Israël, l'Aliyah, selon le terme consacré. L'Aliyah, ça veut dire la montée, on monte vers Israël. Il y a en effet une certaine hausse. Elle n'est moindre qu'elle l'a été dans le passé, donc ça n'est pas non plus une fuite massive, mais malgré tout, ces départs existent. Mais ils sont évidemment moins nombreux, enfin, je dis évidemment, ce n'est pas évident, mais enfin, ils sont de fait moins nombreux que les départs d'Israël vers d'autres pays, d'autres pays européens, et notamment la France. Il faut avoir à l'esprit que à peu près plus de 30% des Israéliens, avant déjà la guerre de Gaza, et ça n'a fait que augmenter encore un peu plus de 30% des Israéliens envisage sérieusement de quitter Israël définitivement, car l'orientation prise par ce pays, à la fois la violence et les discours racistes ouverts, les paroles d'une violence extrême qui se banalise dans cette société, écœurent quand même, enfin font peur à un certain nombre d'Israéliens, y compris des Israéliens qui se reconnaissent grosso modo dans la politique traditionnelle d'Israël, donc on peut qualifier d'Israélien sioniste, mais qui malgré tout voit ce sionisme tourner au cauchemar, à la dystopie, et ne peuvent plus, s'ils en ont les moyens, accepté de rester dans un tel environnement et beaucoup disent ne pas vouloir envisager que leurs enfants grandissent dans une telle hostilité et dans une telle violence à la fois verbale et physique. D'où le fait que l'an dernier, plus de 80 000 personnes ont quitté Israël et que le solde migratoire est négatif au détriment d'Israël, à savoir que beaucoup plus de personnes s'en vont que de personnes n'arrivent. Ce à quoi il faut ajouter que dans l'ensemble, ce sont ce qu'on pourrait appeler les libéraux, au meilleur sens philosophique du terme, qui s'en vont, et ce sont des radicaux nationalistes, exclusivistes, qui trouvent que Israël est le bon endroit où se rendre aujourd'hui dans le contexte effroyable de la guerre de Gaza et du harcèlement violent au quotidien. Il faut aussi en dire un mot de la Cisjordanie où le sort de Gaza est en quelque sorte lui aussi transporté en Cisjordanie avec des moyens, disons, un tout petit peu moins violents, mais une stratégie de harcèlement et de chaos et de désespoir qui n'a rien à envier à celle de Gaza. Donc c'est un soutien à ce genre de politique que se livrent les personnes, les familles qui vont en Israël. C'est terrible, il faut le voir comme ça. Donc cette espèce de bunker ghettoisé, surarmé, est en train de transformer, en quoi est en train de se transformer Israël, exerce une certaine attraction sur une partie du public, mais je pense que c'est quand même une toute petite partie, et exerce une force de répulsion vis-à-vis ceux qui sont en train de la quitter.
Oui, vous l'avez rappelé rapidement, Roni Broman, que les Palestiniens de Cisjordanie étaient harcelés et également assassinés, même par des colons protégés par l'armée israélienne, et les colonies se poursuivent.
Absolument. Alors, on va revenir
vu encore récemment avec cet instituteur activiste qui a été abattu par un colon connu. Hein. C'est un homme qui a fait même l'objet des mesures de rétorsion américaines, ses comptes, il ne peut pas se rendre aux États-Unis. Il a été nommément désigné comme l'un des leaders extrémistes par les Américains eux-mêmes. Dieu sait qu'ils ne sont pas
plutôt tendres
pour les colons et pour Israël. Eh bien, la sanction que lui a valu cet assassinat, ce meurtre avec préméditation qu'il a commis, c'est une nuit de garde à vue, 48 heures d'assignation à domicile, et à l'heure où nous parlons, il est encore en train de narguer les Palestiniens du village qu'il entend donc vider de ses habitants. C'est une espèce d'invasion ultra-violent, ultra-raciste, ultra-dangereux, mais qui est protégé par l'armée, par la police, par la justice israélienne.
Alors, juste pour revenir sur la question médiatique, j'ai envie de dire pendant ce temps-là, par rapport à ce que vous décrivez, pendant ce temps-là en France, on a eu et on continue d'avoir Olivier Rafovitch qui a barre ouvert sur quasiment toutes les chaînes, sur toutes les antennes, le porte-parole francophone de l'armée israélienne. Et là, nouveauté, on a sur le service public, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, hein, ça se déplace d'I24 News à CNews, de CNews à RMC, enfin RMC. C'est BFM TV et ainsi de suite. Et maintenant, ça se retrouve sur le service public, en l'occurrence France Info, qui n'a trouvé, après l'assassinat des derniers journalistes, alors je dis dernier, c'est presque dans les deux sens du terme, des derniers journalistes, l'ambassadeur d'Israël en France. Je vous laisse écouter cet extrait.
Ce n'est pas chaque personne qui a un gilet sur lequel il y a écrit « presse » est un journaliste. Vous savez, certains de ces journalistes qu'on a vus aujourd'hui étaient des personnes qui étaient le 7 octobre dans les kibboutzim, qui était avec les forces du Hamas, avec les forces de Nourba.
C'est une information que vous nous donnez. Parmi les 5 journalistes tués, certains ont participé au commando du Hamas ?
Oui.
Vous êtes sûr ?
En tout cas, c'est ce qui a été publié aujourd'hui. On a les noms avec les images de ceux qui ont été tués. Et à part ça, il y avait aussi des terroristes qui étaient dans cette salle dont j'ai parlé. Alors, je ne dis pas que cette opération, cette attaque a été parfaite. Non, je ne le dis pas. C'est pour ça que nous disons d'une façon très claire, il y a eu une erreur qui a été faite et a eu un accident. Mais quand même, il faut être clair, c'était une cible qui était légitime.
Compris.
Comment vous expliquez si tant est que vous ayez une réponse, hein, comment vous expliquez, comment vous analysez la si faible présence de voix palestinienne ou pro-palestinienne ou pro-droit international, oui, par rapport à autant de présence des sionistes, des pro-sionistes et a fortiori des porte-parole de l'armée et même de l'ambassadeur d'Israël en France qui vient expliquer que, par exemple, dans ce cas-là, on vient de l'entendre, que les journalistes étaient des terroristes.
Bien, je l'explique, enfin, pour autant qu'on puisse expliquer une situation aussi injuste, aussi révoltante, je l'explique par une sorte d'impensé, de connivence avec Israël en tant que démocratie coloniale, c'est-à-dire renvoyant aussi à un passé qui, pour certains, reste encore un passé présentable. Donc, une démocratie qui est en but à une organisation terroriste. Hamas est souvent interprétée dans ces milieux-là comme une version locale de l'État islamique, alors que tout les sépare et que si demain ils existent au même endroit, ce sera dans une confrontation militaire et certainement pas dans une alliance. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça marche. Et Rafovitch, l'ambassadeur d'Israël, sont activement secondés par M. Arfi, le président du CRIF, par Bernard-Henri Lévy, par Raphaël Entoven, qui vient nous expliquer qu'il n'y a pas de famine, ou que s'il y a une famine, elle est due à Gaza, qu'il n'y a pas de journalistes en Palestine, il n'y a que des propagandistes du Hamas. Donc ils viennent littéralement placer une cible sur le gilet pare-balles des journalistes palestiniens. Je rappelle que tout de même, Gaza n'est pas le seul. Gaza est un cimetière de journalistes, comme aucune guerre n'en a fourni, n'en a produit. C'est important de le rappeler. Mais il y avait des signes avant-coureurs de cela. Rappelons-nous, Shirin Abu Akleh, la journaliste palestino-américaine. Je dis bien palestino-américaine, c'est-à-dire il y a une enquête du Département d'État ou du FBI, je ne sais pas. Qui est en cours depuis mai 2022, qui est le moment où Shirin Abu Akleh a été assassinée en plein jour, hors de tout affrontement. Elle était en train de faire un reportage sur une opération israélienne à Jenin, mais il n'y avait pas de tir là où elle se trouvait, et elle a été abattue d'une balle dans la tête. Un autre journaliste a été grièvement blessé, et des secouristes qui se précipitaient pour les relever ces deux corps, ont été eux-mêmes pris d'assaut par des tireurs israéliens. Et la première réflexion était de dire c'est la propagande du Hamas, la propagande palestinienne. Et un porte-parole de l'armée israélienne avait eu cette phrase qui mérite d'être méditée pour être appliquée à ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Imaginez-vous, disait-il, qu'elle est Ils sont armés, par des journalistes palestiniens, ils sont armés de caméras. Voilà l'arme de destruction massive que les Israéliens redoutent. Et c'est d'ailleurs très précisément une caméra qui était visée par, paraît-il, en tout cas c'est l'explication qui en est donnée, par ce tankiste qui a tiré un obus contre une caméra. Et mieux que cela, il a fait ce qu'on appelle une double frappe, à savoir attendre que les secouristes, on était dans un hôpital en plus, donc du personnel médical plus d'autres personnes, se précipitent pour aller apporter de l'aide à des gens qui ont été donc visés par cet obus, et à ce moment-là, on tire un deuxième obus. Et c'est comme ça qu'on explique que deux obus seulement fassent 20 morts et plusieurs dizaines de blessés. C'est particulièrement abject, mais ayant à l'esprit que c'est tout à fait préparé, c'est-à-dire qu'il y a un cadre d'initiative pour éviter les notions d'intention qui sont toujours difficiles à mettre en œuvre, enfin à démontrer. Mais il y a un cadre d'initiative, il y a une sorte d'invitation à tirer dans le tas et à faire le plus de dégâts possible, qui est, que l'on repère dans les discours israéliens et dans les discours de leurs supporters. Quand des intellectuels, des personnes classées socialement comme des intellectuels, nous expliquent qu'il n'y a aucun journaliste à Gaza, on nous explique que tous ceux qui se présentent comme des journalistes sont des menteurs, des terroristes déguisés à qui il faut tirer d'autres balles dans la tête. Voilà ce qui se passe sur ces médias sans que rien ne vienne interrompre le cours de ces insanités.
Alors, merci pour ces précisions. On va en venir à la dernière question, alors qui est plus une question de politique intérieure, parce que je le dis souvent d'ailleurs, que pour moi, le 7 octobre, enfin, et l'après 7 octobre, ça a été 2023, ça a été une fracture à la fois, alors en Occident, en France en particulier, une fracture au niveau médiatique, ce qu'on développe ici de manière assez régulière, et puis au niveau politique. Je pense évidemment à gauche, puisqu'à droite, il n'y a jamais eu de différence profonde. Mais à gauche, je voudrais vous faire écouter cet extrait. Alors, c'est François Calfon qui s'exprime et qui va utiliser une expression qui me semble tout à fait parlante, voire même borderline. Je vous laisse écouter.
À force de jouer la crise, on finit par arriver à la crise. Et donc, la dissolution, si le blocage est constaté, peut arriver. Est-ce qu'on veut trouver une assemblée encore plus ingouvernable ? Est-ce qu'on veut trouver une assemblée avec une majorité d'extrême droite ? Il faut que chacun aussi, y compris chez les socialistes, prenne ses responsabilités. Il y a des gens qui considèrent que dans le chaos, on va nettoyer les socialistes, on va nettoyer le bloc central, on va nettoyer LR, et comme aux États-Unis, on n'aura plus qu'un pôle d'extrême droite et un pôle d'une gauche totalement radicalisée, que je pourrais appeler la gauche Gaza, par exemple. Eh bien, est-ce que c'est comme ça qu'on envisage l'avenir du pays ?
Comment vous comprenez que quelqu'un de gauche, du Parti socialiste, puisse employer la gauche Gaza pour qualifier des gens, eux aussi, de gauche, mais qui défendent le droit international ? Comment en est-on arrivé là ?
Bon, ben, je crois que là, on voit le prolongement d'une tradition bien établie à gauche, la gauche... socialiste, je précise que c'est moi dans la gauche socialiste que je me reconnais, mais pas dans cette tradition-là, disons plutôt dans la tradition du PSU, c'est-à-dire de la partie socialisante, de la partie socialiste qui était explicitement et qui est restée anticolonialiste, mais enfin on sait bien qu'il y a eu une gauche coloniale, disons la gauche molettiste, celle qui s'est précipitée aux côtés d'Israël lors de l'expédition impériale de 1956, à la suite de la nationalisation du canal de Suez, lorsqu'il s'est agi donc d'attaquer l'Égypte de Nasser, qui avait eu le front de nationaliser le canal. Eh bien, la gauche socialiste qui était à l'époque au pouvoir s'est précipitée aux côtés d'Israël, avec d'ailleurs les Britanniques. Voilà, il me semble que là, c'est absolument sans mystère, de même qu'il y a eu une gauche colonialiste bien avant Israël, bien avant la guerre d'Algérie, mais dès le 19e siècle, il y a eu également une gauche anticoloniale. Mais ce que je voudrais ajouter à cela, j'y tiens parce que il me semble que ça éclaircit un peu le débat, c'est que la défense des Palestiniens de Gaza et la défense des Palestiniens, des droits des Palestiniens en général, la lutte pour l'égalité des droits entre tous les habitants qui résident dans la Palestine historique, et moi, ce qui me motive dans le combat, enfin, avec ou sans guillemets, que je mène, ça n'est pas un combat de gauche pour moi. C'est un combat humaniste dans lequel une droite libérale anticolonialiste, je pense à la droite de Raymond Aron ou in fine du De Gaulle tardif, peut tout à fait se reconnaître.
Se retrouver, ouais.
Lorsque nous disions, moi j'étais à la gauche prolétarienne quand j'étais jeune, il y a bien longtemps de cela, nous militions, nous défendions le Fatah et son slogan c'était Palestine laïque, démocratique et socialiste. C'est dans le fait que nous militions pour une Palestine socialiste que l'on pouvait retrouver un élément de gauche. Mais là, il s'agit d'abord de militer pour le droit à l'autodétermination des Palestiniens. Point.
Un droit fondamental.
C'est ça qu'il aurait dénié, et c'est cela que nous voulons obtenir, nous, les amis, disons, de la cause palestinienne. Eh bien, c'est un combat qui déborde de très loin la gauche, même si, effectivement, on a quand même, lorsqu'on est de gauche, la tentation de se mettre du côté des réprouvés, des humiliés et des offensés. Et c'est bien du côté palestinien qu'il se trouve aujourd'hui. Donc je ne méconnais pas du tout cet aspect-là, naturellement. Mais je pense qu'il ne faut pas enfermer la cause des Palestiniens dans un périmètre politique trop étroit.
Alors vraiment, pour terminer, il y a ce fameux état des lieux des victimes civiles. Il y a un chiffre qui est sorti récemment et qui n'a pas été beaucoup plus popularisé que ça, qui n'a pas fait les grands titres. C'est celui de la proportion des civils assassinés par rapport au nombre de combattants du Hamas prétendument tués par l'armée israélienne.
Oui, on a été ces dernières semaines, très concentré sur la question de la famine et du cessez-le-feu pour laisser entrer l'aide. Et c'est en effet une urgence absolument impérative. Mais du coup, a été passé sous silence un chiffre qui est issu des données internes de l'armée israélienne, qui a été diffusé par le média Plus 972 et par The Guardian, et un peu repris dans Le Monde et par l'AFP, mais très peu diffusé, qui est le chiffre de 83% de victimes civiles, puisque les Israéliens, l'armée israélienne, les Israéliens en général, l'armée israélienne estime avoir tué 8900 combattants du Hamas, et que par conséquent, le reste n'étaient pas des combattants. Donc ça fait 83% de victimes civiles. Et si on considère qu'il y a plus de 60 000, mais il y a probablement eu 100 000 morts, eh bien sur les, disons, 8900 à partir des 8900 morts combattants du Hamas, on en déduit que plus de 90% des victimes de cette guerre ont été des civils. Ça, c'est inédit. Aucune guerre contemporaine, et même passée, n'arrive à ce chiffre de 90% de victimes civiles. Et voilà une donnée qui nourrit l'accusation de génocide, de crime contre l'humanité, lancé contre Israël et qui devrait faire définitivement litière de cette espèce de slogan grotesque et infamant qu'est l'armée la plus morale du monde.
Merci beaucoup Ronnie Broman pour vos précieux éclairages. Je rappelle que vous êtes ancien président de Médecins sans frontières, humanitaire engagé et auteur notamment de Guerre humanitaire, mensonges et intox, publié aux éditions Textuelles. Merci à toi Mourad.
Merci beaucoup, merci Ronnie Broman.
Merci à vous.
Merci aux médias. Merci à Mourad Guichard et Ronnie Broman. Merci également à Nadia Lazouni. Maintenant, un souvenir, le retour de Gabriel Catala après l'expédition Andala à Gaza.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes toutes et tous ici pour dire notre solidarité avec le peuple palestinien. Le génocide qui se produit à Gaza est sans aucun doute le pire crime du 21e siècle. Le secrétaire général des Nations Unies l'a redit aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de morts et autant de bombardements, autant de destructions au 21e siècle. La famine qui se produit est sciemment organisée. C'est une famine génocidaire, une famine qui a atteint une ampleur sans précédent, mais qui a toujours été présente. Parce que rappelez-vous que le blocus humanitaire que nous avons tenté de briser avec ce petit bateau existe depuis 2007, et que depuis 2007, Israël contrôle toutes les marchandises qui entrent à Gaza, tous les produits qui entrent à Gaza pour maintenir les Palestiniens dans une situation de malnutrition et pour faire en sorte qu'il n'ait pas le nombre de calories nécessaires pour que les enfants se développent correctement. Il est évident que M. Macron et notre gouvernement sont directement complices de ce génocide. Ce n'est pas uniquement du silence et de l'inaction, c'est de la complicité. Parce que M. Macron n'a à aucun moment décrété un embargo sur les armes. Il n'a à aucun moment mis en place des sanctions économiques, financières et diplomatiques contre Israël. Il n'a à aucun moment initié, alors que la France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, des sanctions et des résolutions. Toutes les initiatives pour sanctionner Israël, que ce soit auprès de la Cour internationale de justice, de la Cour pénale internationale, ou des Nations Unies sont venus de pays que l'on dit avec mépris de pays du Sud, qui sont les pays qui ont porté la voix de l'autodétermination du peuple palestinien. Et je pense notamment à l'initiative de Bourgogne, l'initiative de la Haye, où seuls les pays et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La France s'honorerait à rejoindre cette organisation de la guerre à Bogota, mais encore une fois, elle ne le fait pas. La France ne dit rien non plus lorsque 4000 Français, 4000 personnes ayant la nationalité française combattent à Gaza auprès de l'armée génocidaire de Benjamin Netanyahu. Et seulement deux soldats sur 4000 font aujourd'hui l'objet d'une procédure devant la justice française, alors que le ministre des Affaires étrangères pourrait signaler à la justice française les noms de toutes ces personnes engagées et complices de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. La France est aussi en dessous de tout concernant l'aide humanitaire. Elle a annoncé hier larguer 40 tonnes par voie aérienne sur Gaza, sans sécuriser ce qui arrive au sol, ce qui est dénoncé par les ONG, par toutes les ONG, notamment Médecins Sans Frontières, parce que c'est extrêmement dangereux. Elle va larguer 40 tonnes d'humanitaire pour 2 millions de personnes affamées, dont 1 million d'enfants, 2 millions de personnes en crise alimentaire aiguë, dont 500 000 en situation de famine. Plus de 2 millions qui n'ont pas mangé depuis des jours parce que les Palestiniens mangent un repas tous les 4 jours environ selon le programme alimentaire mondial. La France est aussi en dessous de tout, même pour ne serait-ce que sécuriser 6 de ses ressortissants qui étaient partis sur ce petit bateau. Ce petit bateau, le Andala, qui portait la voix de tout ce que les gouvernements ne font pas. Nous étions 21 sur ce petit bateau, nous portions l'espoir de toutes les personnes qui ne se retrouvent pas dans la complicité et dans l'inaction de nos gouvernements. Et qu'est-ce qu'a fait M. Barrot? Il a dit que nous étions irresponsables d'aller vers Gaza où la situation... Et ensuite, il a dit que nous étions une opération marketing à des fins politiques. Et que ce n'était pas ça qui allait mettre fin aux souffrances des Palestiniens. Mais que fait M. Barrot pour mettre fin aux souffrances des Palestiniens? Que fait M. Macron pour mettre fin aux souffrances des Palestiniens? Tout ce qu'a fait M. Macron, c'est seulement annoncer que peut-être en septembre, il reconnaîtrait l'État de Palestine, au lieu de le faire immédiatement. Est-ce qu'il attend que tous les Palestiniens soient exterminés, que tous les Palestiniens de Gaza aient disparu pour reconnaître l'État de Palestine? Et il l'a fait d'une manière colonialiste, en proposant, en annexant à cette reconnaissance un communiqué disant que la Palestine serait reconnue comme un État souverain uniquement si elle était totalement désarmée. Comment peut-on accepter que la Palestine soit un État adossé à l'une des armées les plus violentes du monde, à l'armée la plus immorale du monde, financée depuis l'octobre 2023 par 22 milliards de dollars venant des États-Unis? Comment pourrions-nous supporter que la Palestine reste à côté d'Israël comme un État vulnérable, sans armée, sans rien, et donc sans leurs droits élémentaires à la souveraineté et à tous les attributs de la souveraineté? Monsieur Macron avait déjà promis en avril qu'il reconnaîtrait la Palestine en juin, et donc, dès qu'il fait des promesses, ne le croyons pas et continuons à mettre la pression, parce que c'est immédiatement que Monsieur Macron doit reconnaître l'État de Palestine. C'est immédiatement qu'il va mettre un embargo sur les armes. C'est immédiatement qu'il doit, au sein de l'Union européenne, dire qu'il faut suspendre la négociation entre lui et Israël, parce que l'Israël viole depuis 21 mois, mais depuis bien plus longtemps en réalité, l'article 2 de cet accord d'association sur le respect des droits humains. Et même l'Union européenne le sait qu'Israël viole cet accord. Elle n'a rien fait. Elle s'est seulement contentée de dire qu'elle allait regarder si Israël allait faire entrer des camions humanitaires et faire une réunion le 28 août pour voir si Israël fait rentrer des camions et pour peut-être prendre des mesures si Israël ne tient pas ses promesses, sans aucun moyen de vérifier ce que fait Israël. Israël continue à déverser sa propagande en disant que c'est les Nations Unies qui bloquent l'aide alimentaire et que ce n'est pas Israël. Regardez les publications de l'ambassade d'Israël en France, ce n'est que de la propagande et des vidéos mensongères disant que l'aide est bloquée par les Nations Unies, alors qu'il y a un Rafah,
à la frontière égyptienne, l'équivalent de 4 mois d'aide humanitaire dans des camions pour nourrir 2 millions de personnes, et des palettes d'aide humanitaire qui pourrissent aux frontières entre Gaza et Israël au lieu qu'elles soient livrées aux Palestiniens. Et sur ce petit bateau, donc, nous portions un espoir. Monsieur Macron n'a à aucun moment condamné cette arrestation parce que, comme le Madeleine, nous avions été arrêtés en toute illégalité dans des eaux internationales. C'est donc une violation très grave du droit international maritime et du droit international humanitaire parce qu'il est interdit de bloquer un bateau qui transporte de l'aide humanitaire. Dites-vous bien qu'Israël a donc considéré qu'un bateau transportant du lait infantile, des produits d'hygiène pour les enfants, de la nourriture, était une menace pour leur sécurité. Et non seulement ils nous ont arrêtés dans les eaux internationales, mais ils ont prétendu que c'était une zone militaire à défendre, interdite. Et s'ils nous avaient arrêtés plus loin, rappelez-vous que nous aurions été dans des eaux palestiniennes et pas dans des eaux israéliennes, car Israël n'a aucune souveraineté sur les eaux qui sont en face de Gaza, sur le droit international. C'est un territoire annexé sur lequel Israël n'a aucune souveraineté. Ils nous ont arrêtés à 100 km des côtes palestiniennes. À 100 km. Nous étions à 54 miles. Il nous restait 9 heures à peine de navigation jusqu'à Gaza. Ils nous ont arrêtés à 23 heures et à 5 heures, nous serions arrivés à Gaza. C'est même 6 heures de navigation. Ils nous ont arrêtés, ils nous ont kidnappés. Parce qu'on se moque de nous quand on parle de kidnapping en disant « Madame, vous n'avez pas honte de parler de kidnapping ». Mais quand on emmène des gens d'un point A à un point B en les ayant arrêtés, alors qu'ils n'ont commis aucune infraction contre leur gré dans des eaux internationales, cela s'appelle un kidnapping, cela s'appelle saisir un bateau illégalement, cela s'appelle violer le droit international. Et d'ailleurs, à la différence de la France, en Espagne, il y a une procédure qui a été ouverte par la justice espagnole pour crime contre l'humanité, pour l'interception du Madeleine dans des eaux internationales alors qu'il transportait de l'aide humanitaire. Non seulement ils nous ont interceptés, mais l'armée la plus morale du monde, soi-disant, celle qui considère que les Palestiniens sont des animaux à exterminer, a fait ensuite semblant, dans son cirque habituel, de nous donner des sandwichs et de l'eau, avec leurs caméras dignes d'Hollywood. Nous avons évidemment tous décidé de refuser toute la nourriture qui venait d'Israël. Et nous avons tous immédiatement entamé une grève de la faim. Nous leur avons dit qu'ils n'avaient qu'à donner leur sandwich aux Palestiniens, qu'ils affament à Gaza, à nos enfants qu'ils affament. Si jamais nous ne mangerions leur sandwich immonde, sûrement fait avec des produits venant de colonies illégales au regard du droit international. Et donc, ils nous ont ensuite amenés de force jusqu'au port d'Ashdod avec des moyens démesurés, 50 militaires, plusieurs zodiacs, les mêmes zodiacs que vous voyez au bord de l'eau en Palestine lorsque des Palestiniens essayent de pêcher ou de se baigner et qu'ils sont tués par des snipers israéliens. C'était les mêmes zodiacs et la même unité d'élite. Ils nous ont amenés jusqu'à Ashdod et lorsque nous sommes arrivés, ils ont bien montré de nouveau leur immoralité et le racisme, parce qu'on parle beaucoup de Netanyahou et du régime d'extrême droite de Netanyahou, mais le racisme et le caractère colonial et structurel en Israël. Israël est structurellement un pays raciste et colonial. Et lorsque nous sommes arrivés, il y avait un seul camarade qui était noir sur le bateau, Chris Moll, syndicaliste américain qui a créé le premier syndicat des travailleurs Amazon. Eh bien, c'est le seul qu'ils ont pris à bord. À 5 policiers qu'ils ont mis dans une salle loin de nous. Nous n'avions plus de ses nouvelles, nous ne savions pas ce qui lui arrivait. Nous avons refusé de bouger tant que nous ne savions pas où était Chris. Ils nous ont emmenés de force dans une autre salle. Et nous avons ensuite appris ce matin que Chris avait été étranglé et tabassé dans la prison de Ben Gibbon en Israël. Parce qu'Israël est un pays raciste. Ils nous ont ensuite proposé de signer. Ils nous ont dit que nous étions tous détenus parce que nous étions entrés dans une zone militaire illégale. Ils nous ont donc proposé de signer un papier en hébreu sur lequel nous ne pouvions pas lire puisque nous ne comprenons pas l'hébreu. Nous disant que nous avions commis une infraction, nous avons tous refusé de signer. Et ensuite nous avons tous droit à un interrogatoire chacun sur pourquoi nous étions là, etc. Un interrogatoire qui était lui aussi pathétique. Et lorsque j'ai mis mon empreinte digitale sur leur appareil, ils m'ont dit « Madame, vous êtes déjà venue en 2013 en Israël ?» J'ai dit « Non, en 2013, je suis venue en Palestine. » Et ils m'ont répondu « La Palestine !» assassins n'existent pas. Et toutes les personnes auxquelles j'ai eu affaire pendant 41 heures, que ce soit le service du port, les policiers, les services de l'immigration, n'a pas eu une seule personne agréable, que des personnes désagréables et immondément racistes. Et tous les camarades ont décidé aussi de ne pas se laisser faire. Lorsque j'ai terminé mon entretien, il m'a dit « Vous avez quelque chose à ajouter, madame ?» Je lui ai dit « Oui, Free Palestine. » Et il a noté une phrase en hébreu qui faisait 4 lignes, en me proposant ensuite de faire signer mon papier. Je lui ai dit « Moi, je ne comprends rien, monsieur, ce que vous avez écrit, comment vous avez retranscrit mon entretien. Donc, je ne signe pas un papier sur lequel je ne comprends rien. » Donc, j'ai refusé de signer ce papier. Et ensuite, ils nous ont proposé un autre papier, disant que nous étions interdits de territoire pendant 100 ans.
Merci à l'équipe de la flottille Andala, merci à Gabriel Catala, député LFI, et à bientôt pour un nouveau replay.